RCF.
La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Jean-Luc Autrette,
Marie-Pierre Desfossés,
Malou Lebars, et merci à Guilhem Thieno à la technique. Bonjour à tous. Nous poursuivons notre méditation sur les textes bibliques avec cette thématique de la violence et de la paix, comment se manifeste la violence sous toutes ses formes et qu'en est-il de la paix, mais pas de la paix simplement qui se vit avec des traités humains entre les peuples, mais la paix qui vient d'en haut. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'aller dans le livre des Nombres, au chapitre 21, pour lire un petit passage qui concerne ce qu'on appelle le serpent d'airain, Moïse et le serpent d'airain. Alors, je vous propose tout de suite d'entendre la lecture de ce passage. Nous sommes au chapitre 21, donc, du livre des Nombres, et nous allons lire le passage qui va du verset 4 jusqu'au verset 10.
Ils partirent de hors la montagne, par la route de la mer des joncs, en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a ici ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à une hampe. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Les fils d'Israël partirent et campèrent à Ovot, puis ils partirent d'Ovot et campèrent à Iye Avirim dans le désert qui est en face de Moab.
Voilà donc ce fameux épisode, mais peut-être faut-il évoquer d'abord ce que contient un peu ce livre des Nombres. Pourquoi ça s'appelle le livre des Nombres ? Ça vous dit quelque chose ? Ben, en tout cas, ça commence par quoi ?
Par un recensement, c'est ça parce commence... qu'en fait on compte les tribus, les fils d'Israël.
Voilà, c'est vrai que donc tout le début du livre des Nombres... avant le départ du peuple du Sinaï. Eh bien, donc, on compte, et puis on arrive à un nombre d'ailleurs assez extraordinaire, parce qu'on en arrive à 600 000. Alors, il faudrait sans doute diviser par 100, mais bon, voilà. Donc, c'est une manière de donner comme une sorte d'ampleur à l'histoire de ce peuple de l'Alliance. Alors, ce peuple de l'Alliance, il est conduit par Moïse. Moïse, nous l'avons vu dans le livre de l'Exode, Moïse a fait sortir son peuple du joug de Pharaon, hein, de l'Égypte. Mais on pourrait dire que ce peuple qui a été libéré par le Seigneur, parce que voilà, c'était le peuple choisi, le peuple de l'Alliance, il devrait toujours être dans une sorte de contemplation de son Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Or, on le voit dans le livre des Nombres, il n'arrête pas de récriminer.
Il n'est pas vraiment content d'être là.
Ils ne sont jamais contents. Et il y a je ne sais combien d'épisodes avant le passage qui nous intéresse aujourd'hui où ils sont en train de récriminer parce que ils veulent de la viande, par exemple.
Il n'y a pas à manger.
Voilà, ils veulent de la viande. Si, ils ont à manger, ils ont de la manne, mais ça ne leur convient pas. Ils veulent de la viande, donc ils ont des cailles. Et donc, ça ne se passera pas si bien que ça, parce que dans ce cas-là, le Seigneur va punir et puis il y a une partie du peuple qui a réclamé, qui va mourir. Et puis après, bah, ils sont pas contents non plus parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, c'est à ce moment-là que Moïse va frapper le rocher aussi. Donc, il y a toujours cette idée-là que le peuple, c'est un peuple... Enfin, c'était dans le récit de l'Exode qu'on avait cette expression, c'est un peuple à la nuque raide. Hein, ça veut dire qu'il a du mal à s'élever, à regarder vers en haut, vers le ciel. Alors on va peut-être reprendre un peu tout ça et voir comment c'est mis en œuvre dans ce passage bien particulier qu'on appelle le serpent d'airain ou le serpent de bronze. Hein. Donc ils partirent de hors la montagne par la route de la mer des Joncs, en contournant le pays d'Édom. Mais le peuple perdit courage en chemin, ou en tout cas, c'est difficile à traduire cette expression, la perdit courage. En fait, tout ce qui fait l'âme du peuple, on peut dire que c'était trop court, quelque chose comme ça.
Comme un peu rabougri, qu'on va dire.
Oui, c'est ça, oui. Donc, l'être du peuple ne va pas bien. Alors, si on traduit simplement par perdit courage, on se dit, bon, bah, c'est vrai qu'il y a peut-être quoi de perdre de courage, parce qu'ils sont obligés de contourner la terre d'Édom, parce que ils ne veulent pas les laisser passer, parce qu'ils sont en route, évidemment, vers la terre promise, mais bon, voilà, ça ne marche pas toujours comme ils veulent, hein, voilà. Et donc, ce peuple-là, qui, en tout cas, est dans le mal-être, on peut dire ça comme ça, une sorte de mal-être. Bon. Le peuple n'est pas bien. Alors, verset 5, le peuple se met à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Ah, voilà.
On a déjà ici tout de suite une parole tordue.
Alors Marie-Pierre, vous allez devoir expliquer parce que vous dites ça, mais moi je n'entends pas trop dans ce que vous dites. Qu'est-ce que ça signifie pour vous une parole tordue? Et soyez plus précise.
Ce qu'elle dit, il parle contre Elohim et Moïse.
Oui,
contre
alors
Dieu
donc,
et Moïse.
Dans la version que nous avons de la Top, c'est pas exprimé comme ça. C'est le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse. Hein, donc se mit à critiquer Dieu et Moïse. Mais bon. Donc ça évoque aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est
mais
que
on est effectivement dans la récrimination, on est dans cette posture-là. En fait, il n'y a pas vraiment de discussion, enfin de discussion, il n'y a pas de relation entre le, on parle pas de peuple d'ailleurs, on a dit il en fait, donc c'est une foule en fait. Si on parle du peuple, mais c'est ce peuple, il est pas dans la relation avec son Dieu. Il est contre, enfin il dit des choses, mais c'est pas, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de relation là en fait. Et c'est ça qui est important.
Ben, on peut dire aussi que, enfin, pour reprendre l'expression de Marie-Pierre, si je m'adresse à quelqu'un et que c'est une parole qui est une parole de critique, on ne peut pas dire que la relation que j'ai avec la personne soit une relation très bonne et très belle.
Non, c'est sûr.
Donc, si je n'ai de parole que pour être contre, et là, les deux sont mis dans le même sac, pourrait-on dire, pour parler familièrement, hein, Dieu et Moïse. Il n'y en a pas un qui échappe, et ce n'est pas simplement contre Dieu, c'est contre Moïse qui est le médiateur, hein, l'intermédiaire. Alors, pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont peur de mourir. Comment pouvez-vous entendre cela?
En tout cas, ils ont du mal sans doute à accepter, comme on le disait tout à l'heure, de changer de route, de dévier en fait. Et malgré tout, c'est peut-être important que le fait qu'ils soient déviés, qu'ils soient mis un peu, qu'ils aillent justement, qu'ils doivent passer par le désert, ça va être certainement. Mais ils l'acceptent pas en vérité. En fait, ils ont du mal à l'accepter.
Oui, mais ils disent qu'ils vont mourir parce que il n'y a ni pain ni eau.
Oui, alors là, c'est de la mauvaise foi en vérité.
Et puis ils oublient qu'ils ont été sauvés aussi par le Seigneur en quittant l'Égypte et en traversant.
Oui, oui. Et puis comme le rappelait Malou tout à l'heure, effectivement, ils ont déjà eu du pain, des cailles, de l'eau. Donc en fait, c'est un petit peu de la mauvaise foi, non?
Alors donc en fait, c'est peut-être un peu subtil, mais on va travailler ça un petit peu. Il n'y a ni pain ni eau et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Si on considère que ce pain de misère, c'est la manne que Dieu leur donne jour après jour, hein, dans le désert, comment se fait-il que ce pain soit devenu pour eux un pain qui les dégoûte et qui soit un pain de misère? Et que leur problème, c'est la peur de mourir. Donc il y a bien quelque chose de dénaturé par rapport au pain qu'ils sont censés recevoir. Hein. Donc voilà, la logique, notre logique à tous, c'est d'avoir à mourir.
Oui, tout à fait. On est dans le registre de la vie et de la mort.
Là, ben voilà, notre être natif, si on veut, il est condamné à mourir.
Tout
on
à
pourrait
fait.
Dire même dès notre naissance. Alors, toute la question, c'est ça. Ce peuple-là, comme dit Marie-Pierre, s'il en oublie quelle est sa spécificité d'être un peuple qui a été libéré par Dieu, et conduit par Moïse qui est l'envoyé de Dieu, eh bien, s'il oublie ça, il devient un peuple parmi les autres, un peuple comme tous les autres. Et dans ce cas-là, effectivement, sa préoccupation, voilà, c'est comment se fait-il, on est dans le désert, voilà, ça conduit à la mort, voilà, dans le désert, on voit bien, il n'y a que des peuples qui combattent d'autres peuples, qui sont en bisbille avec d'autres peuples. Voilà ça on pourrait dire, nous l'avons dit maintes fois, mm-hmm. C'est un peu la logique de notre monde, du monde qui tourne.
Oui, parce qu'on est dans le registre de la valeur quand il parle de ce pain qui n'a plus de saveur.
Oui.
Parce que c'était le pain donné par Dieu, c'était une relation à Dieu.
Oui.
C'est ça, en fait, qu'ils oublient.
Il y a une incapacité pour le peuple de reconnaître le don de Dieu, en vérité. Et il a du mal à percevoir ça, en fait, l'importance que...
Oui, c'est-à-dire que le pain, s'il n'est plus référé au donateur,
voilà.
Il perd sa saveur.
Oui, oui, oui.
Voilà, c'est ça. Donc tout le problème du peuple ici, c'est de perdre la relation à celui qui donne tout, qui a donné la vie. Et donc le pain, c'est le signe que l'on vit sous le régime de la donation, quoi. Si on oublie le donateur, ben voilà, on vit avec ses propres ressources, on essaie de survivre, mmh. et on est préoccupé par le fait qu'il va falloir mourir. Voilà oui. La question, hein, pour oui. pour le peuple, puisqu'il a oublié sa relation particulière avec le Seigneur Dieu, et donc il devient un peuple qui bataille comme tout le monde, comme tous les autres, comme notre monde, avec son avoir à mourir, hein, voilà, donc.
Et qui est dans le régime de l'autosuffisance, en quelque
oui,
sorte,
aussi.
En fait. Il pense pouvoir s'en tirer tout seul avec ses propres forces.
Oui, puis ça conduit fatalement à l'insatisfaction.
Alors donc ici, eh bien voilà, c'est on peut comprendre que on peut traduire Chouraki traduit pour cette expression là quand on dit que le peuple perdit courage, l'être du peuple
oui.
était trop court, fut trop court. Voilà, c'était comme on disait tout à l'heure,
oui,
l'être du peuple c'est devenu une peau de chagrin puisqu'il il n'a plus cette relation avec le Très-Haut. Hein, donc voilà, et donc voilà la pathologie du peuple qu'il faut soigner. Alors qu'est-ce qui va comment ça va être le soin qui va être apporté, hein, donc voilà, donc on va voir au verset 6. Le verset 6 nous dit donc: alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent, et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Alors, est-ce que Dieu, c'est un Dieu punisseur, le Seigneur Dieu là? On revient toujours à la même question. Hein, il envoie contre le peuple les serpents, les brûlants. Ils mordent le peuple. Ça n'a pas l'air de...
Finalement, il faut qu'ils expérimentent ce qu'il en est de cette mort-là.
Oui, c'est-à-dire... qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puisqu'ils ont l'impression qu'ils vont mourir
qu'ils vont
au désert,
mourir.
Eh bien voilà, cette mort-là, elle va leur être
oui,
donnée.
Oui, on a le sentiment que là, c'est Yahvé Adonai dont il est question d'ailleurs, et plus des Elohim là, mais effectivement, il va, comme on l'avait vu précédemment avec Pharaon, il va donc pousser ce régime-là jusqu'au bout, puisque si c'est ce régime-là sur lequel vous voulez vivre, ben on y va jusqu'au bout, quoi, pour voir jusqu'où ça peut aller, et on verra que ça va jusqu'à la mort, puisqu'il est dit qu'effectivement, beaucoup d'entre parmi les fils d'Israël meurent, en fait.
Donc, oui, on va dire que justement, ça va faire révélation de ce qu'il en est, véritablement.
Exactement.
Ça va faire
et puis, on peut dire aussi que le serpent, il fait partie du monde des champs, du monde de Caïn.
Alors donc là, Marie-Pierre, il faut que vous redisiez que donc dans les raccourcis rapides.
Dans la Genèse, dans la Genèse, on retrouve au début de la Genèse le serpent.
Et qu'est-ce qu'il a de particulier, ce serpent? C'était le plus rusé de toutes les bêtes des champs.
C'est lui aussi qui a la parole tordue. Donc il rappelle aussi tout ce qui est nos activités humaines. Et puis la mort dans le désert, parce que le désert c'est aussi le lieu de la rencontre avec Dieu, souvent dans la Bible, mais c'est aussi un lieu de mort parce que il n'y a pas de fruits.
Donc, si je comprends bien cette histoire de serpent, c'est pas étonnant que ça vienne là, hein, parce que on a cette mémoire biblique. Alors ici, par contre, on a une expression un peu nouvelle. Les serpents, quand c'est Dieu qui les évoque, ils sont appelés les brûlants. Alors, oui. Qu'est-ce que ça traduit, ça, les brûlants? Est-ce que ça ne peut pas évoquer aussi tout ce qui nous brûle, nous, parfois, de l'intérieur, non? Tout ce qui nous consume, parfois, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a bien des choses qui sont peut-être assez futiles, quelquefois, et qui peuvent nous brûler et nous consumer aussi. Hein, donc, voilà. Donc, là où Israël est un peuple comme les autres, où il oublie celui à qui il doit tout, celui qui est le donateur par excellence, qui oublie sa relation au Seigneur Dieu, donc il est soumis à l'avoir à mourir, et donc il est en quelque sorte soumis à l'action du serpent qui rampe, de celui qui est dans le domaine du champ, hein. C'est ce que Marie-Pierre appelait le domaine de Caïn, par rapport à Abel. Et donc le texte nous dit que il faut que dans le peuple il y ait une partie qui meurt. Alors effectivement, si on dit il mourut un grand nombre de gens en Israël, on se dit oh là là, c'est bizarre cette finale là quand même. Mais on peut dire aussi que c'est le peuple fort d'Israël qui meurt, c'est-à-dire que dans le peuple d'Israël va mourir ce qui est du côté de cette force
autosuffisante,
voilà, oui. qui a oublié que tout est donné. Alors on va voir un peu ce qui va se passer par la suite. Je vous propose une interruption musicale. Au chapitre 21 du livre des Nombres, nous lisons ensemble ce passage qui concerne ce qu'on appelle le serpent de bronze ou le serpent d'airain. Et donc nous en étions au verset 7, au verset 6 plus exactement, le Seigneur qui a envoyé contre le peuple des serpents, des brûlants pour qu'ils les mordent. Et puis donc il y a cette partie tout du peuple qui est incapable de reconnaître l'action de Dieu, hein, qui a oublié que Dieu lui donne tout, qui doit disparaître, qui doit mourir en Israël. Alors au verset 7, on a « Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Et Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Alors nous avions aussi, à propos des serpents, des brûlants, nous avions évoqué le serpent de la Genèse, hein, qui était le serpent qui est celui qui rampe et donc celui qui est associé à cette vie collée à la terre, qui est aussi la vie des humains, hein, quand il n'y a pas cette possibilité de lever le regard vers celui qui est la source de la vie. Mais ici, donc, le peuple est en train de se convertir un peu, non ? On pourrait penser.
Ça a été un peu comme une piqûre de rappel, là,
c'est le cas de dire. C'est le cas de dire, oui. La,
hein, c'est un peu morsure. Dans l'air du temps. Disons que, oui, voilà, je pense que ça les a bien réveillés, cette histoire-là, puisque, du coup, ils vont rentrer en relation, ce qui n'était pas le cas dans la première partie du texte, puisqu'ils récriminaient dans leur coin, et là, tout à coup, oui, ils s'adressent à Moïse. Il y a une parole adressée, oui, pour une fois.
Et oui, puis ils disent quand même « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant ». C'est quand même un retour sur eux-mêmes.
Oui,
hein, donc,
oui.
Et donc là c'est presque un cri aussi de leur part, non ? Et ils demandent presque d'être sauvés, quoi.
C'est un cri de souffrance, on peut même dire ça. Hein, oui.
Oui.
Crier vers le Seigneur par l'intermédiaire de Moïse. Hein, donc c'est vrai que... Alors, ils demandent quoi ? Ils demandent que le Seigneur éloigne de les serpents. Alors, ouais. Est-ce que nous avons lu la suite ? Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Est-ce que le Seigneur va éloigner les serpents ?
Non.
Les serpents seront toujours là.
Les serpents seront toujours là. Oui. Donc, en fait, on peut dire que leur demande, elle est sincère, mais elle n'est pas encore très ajustée, quoi. Ils demandent que le Seigneur éloigne de les serpents. Alors, c'est vrai que ça évoque un petit peu nos demandes à nous quand nous nous adressons aussi à Dieu. Fait que ceci, Dieu, quand il y a un cri de notre part,
oui,
c'est pas nécessairement ajusté. Mais si la relation est ajustée, c'est pas pareil. Et donc là, je crois que ici, on peut dire que pour une fois,
oui,
cette fois-ci, donc la relation entre le peuple et Moïse et Dieu est ajustée. Alors voilà, ce qu'il demande ne sera peut-être pas exaucé, mais il y a quand même un véritable cri, un véritable appel adressé. Voilà. Alors, ce que Dieu va demander, ce que le Seigneur Dieu va demander à Moïse, donc, c'est de faire un serpent, un brûlant, et de le fixer à une hampe, une bannière, si on veut, et quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Alors, bon, c'est assez particulier. Moïse dit au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain, le fixa une hampe, et lorsque un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain et il avait la vie sauve. Alors, est-ce que c'est de la magie, tout ça ?
Non, finalement, ici, le travail de Moïse, c'est de faire en sorte que le brûlant devienne un signe.
Oui, enfin, c'est le Seigneur qui lui a demandé. Hein, donc,
Et il lui a demandé pour lui, en plus. C'est ça qui était très curieux. Il lui dit, fais-toi un brûlant, en fait. Dans un premier temps.
Fais pour toi un brûlant. C'est-à-dire que Moïse est parfaitement intégré. Il a le peuple avec lui. Il est le représentant du peuple. Alors on peut dire donc fais un brûlant en guise de signe. On pourrait dire ça.
Hein. Oui.
Mais fixe-le. D'ailleurs, le fixer à une bannière, une sorte de hampe, une sorte de perche, c'est pour qu'il soit élevé.
Oui. Oui, et puis pour obliger le peuple à lever aussi la nuque, parce qu'on a dit au début qu'en fait c'était un peuple à la nuque raide.
Oui.
Le signe, il est donné à voir, mais pour cela, il faut quand même élever la nuque.
Et le signe, il est vertical, donc cette
oui,
fois-là,
tout à fait, oui,
voilà,
tout à fait.
Un signe à voir. Mais comme il y a aussi la parole qui a été entendue, c'est la parole qui donne au signe toute sa force aussi, la parole de Seigneur.
Oui, hein. Enfin, on pourrait dire. Peut-être en poussant un peu le, c'est comme une écriture en
oui,
quelque sorte.
Oui, voilà. Voilà.
Comme une écriture de la parole en fait.
Oui. Oui. Et donc nous avons vu que le régime de la vie avec le Seigneur, c'est pas d'échapper au serpent.
Non.
C'est pas d'échapper à la nécessité de mourir parce que ça fait partie de notre être oui. natif, mais c'est de recevoir une vie, de recevoir la vie qui va permettre de contrecarrer la morsure du serpent et qui va permettre que la vie aille au-delà.
De sortir de ce registre d'autosuffisance
voilà.
qui est mortifère en fait.
Voilà.
Oui, ici il est question de la vie qui demeure.
Donc accepter de regarder le signe, c'est accepter de regarder ça comme un signe de vie. Hein, voilà. Et qu'on ne soit plus sous le régime de la parole dévoyée du serpent. C'est comme si c'est comme si ça crée un nouvel espace pour le peuple, un nouvel espace où il peut, en levant le regard, où il peut vivre. Hein, un nouvel espace pour voir que le brûlant n'a pas d'effet. Hein, voilà. Mmh. Donc c'est, Moïse, c'est pas lui le serpent, hein. C'est pas lui le serpent d'airain, c'est pas lui. Mais Moïse, il fait en sorte que le signe devienne visible et voilà. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Hein. Donc et on pourrait dire aussi que dans cette finale là, je lis juste le verset 10 qui suit. Les fils d'Israël y partirent et compèrent. Voilà. L'épisode se termine, les fils d'Israël s'en vont. Mais nous notons que cette fois-là, ils ne sont plus appelés le peuple, comme
non,
tous les autres peuples.
Ils sont appelés les fils.
Ils sont appelés les fils d'Israël. À nouveau, quand ils sont capables de se tourner vers le donateur de la vie, et que c'est celui-là qui les sauve de la mort, eh bien, donc, à nouveau, ils deviennent des fils. Nous sommes, dans cette filiation-là à laquelle nous sommes tous appelés. Merci d'avoir été avec nous sur RCF.